16. Ayant atteint sa vitesse de croisière, le véhicule progressait en souplesse dans un silence absolu, et Trévise restait figé dans un silence tout aussi absolu. Sans avoir à tourner la tête, il était conscient du regard que lui jetait de temps en temps Pellerat, le visage rempli d'incertitude. Un regard qui disait « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous en prie, dites-le-moi. » Un bref coup d'œil à Joie, tranquillement assise, lui indiqua qu'elle semblait apparemment insouciante. Mais enfin, elle représentait un monde entier à elle toute seule. Même si elle se trouvait à des distances galactiques, Gaïa tout entière était nichée sous sa peau. Elle avait des ressources susceptibles d'être mobilisées en cas d'alerte. Mais que s'était-il donc passé? Sans aucun doute, le fonctionnaire de la station d'entrée, suivant la routine, avait transmis son rapport en omettant Joie, rapport qui avait éveillé l'intérêt de la sécurité et détails incongrus du ministère des Transports. Pourquoi? On était en temps de paix et il n'avait connaissance d'aucune tension spécifique entre Comporellon et la Fondation. Lui-même était un important fonctionnaire de la Fondation. Minute. Il avait dit au fonctionnaire du poste d'entrée, Kendray, c'était son nom, qu'il avait une mission importante auprès du gouvernement comporélien. Il avait bien insisté là-dessus, dans sa tentative de franchir le barrage. Kendray devait également l'avoir signalé, soulevant fatalement toutes sortes de curiosités. Il aurait dû prévoir cela. Qu'en était-il de son don supposé de prévoir juste? Commençait-il à se prendre pour la boîte noire que Gaïa voyait en lui, ou prétendait voir en lui? Était-il en train de s'enfoncer dans un bourbier, guidé par un excès de confiance né de la superstition? Comment avait-il pu un seul instant se laisser piéger par cette absurdité? Ne s'était-il jamais trompé de sa vie? Connaissait-il la météo du lendemain? Gagnait-il de grosses sommes au jeu de hasard? La réponse était non, non et non. Dans ces conditions, était-ce uniquement dans le cas de choses vastes, informelles, qu'il avait toujours raison? Comment savoir? Au diable tout cela! Après tout, le seul fait qu'il ait déclaré avoir une importante mission d'État, non, c'était de sécurité de la Fondation qu'il avait parlé. Eh bien, dans ce cas, le seul fait que sa présence fût justifiée par la sécurité de la Fondation au terme d'un voyage secret non annoncé aurait sans aucun doute attiré leur attention. Certes, mais jusqu'à ce qu'il sache au juste de quoi il retournait, sans doute aurait-il agi avec la plus extrême circonspection, se montrant cérémonieux et le traitant comme un haut dignitaire. Il eût été hors de question de l'enlever et d'employer la menace, or c'était très exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur donnait assez d'assurance pour traiter de cette façon un conseiller de Terminus? Se pouvait-il que ce fût la Terre? La même force qui dissimulait si efficacement le monde des origines, même à l'encontre des grands mentalistes de la seconde fondation? Cette force était-elle à l'œuvre pour circonvenir sa quête de la Terre à son tout premier stade? La Terre était-elle omnisciente, omnipotente? Trévise hocha la tête. Ce genre de raisonnement menait tout droit à la paranoïa. Allait-il rendre la Terre responsable de tout? Chaque bizarrerie de comportement, chaque tournant de la route, chaque changement de situation devait-il être le résultat des secrètes machinations de la Terre? Qu'il se mette à penser de la sorte, et il était fichu. À ce point de ses réflexions, il sentit le véhicule ralentir et fut brutalement ramené à la réalité. Il s'aperçut qu'il n'avait pas jeté un seul coup d'œil sur la ville qu'ils étaient en train de traverser. Il décida de combler son retard avec une certaine avidité. Comme les édifices étaient bas et le climat froid, il supposa que la majorité des constructions étaient souterraines. Il ne vit nulle trace de couleur, et cela lui parut aller à l'encontre de la nature humaine. À l'occasion, il pouvait apercevoir un passant, bien emmitouflé, mais là aussi, les gens comme les bâtiments devaient sans doute être sous terre. Le taxi s'était arrêté devant un vaste édifice bas, situé dans une dépression dont le fond restait dérobé à sa vue. Quelques instants s'écoulèrent, et le véhicule ne bougeait toujours pas, son chauffeur tout aussi immobile. Son haut bonnet blanc touchait presque le toit de l'habitacle. Travis se demanda fugitivement comment l'homme s'arrangeait pour monter et descendre du véhicule sans l'accrocher. Puis il dit, de ce ton de colère maîtrisé qu'on était en droit d'attendre d'un fonctionnaire hautain traité cavalièrement, « Eh bien, chauffeur, à présent ?» La version comporélienne du champ de force scintillant qui tenait lieu de séparation entre le chauffeur et ses passagers n'avait rien de primitif. Les ondes sonores pouvaient la traverser, même si Trévise était persuadé qu'elle demeurait hermétique aux objets matériels mus par une énergie raisonnable. « Quelqu'un va venir vous prendre, » répondit le chauffeur. « Restez patiemment assis. » Au moment où il disait ces mots, trois têtes apparurent en une lente ascension régulière, venant de la dépression où reposait l'édifice. Suivit bientôt le reste des corps. À l'évidence, les nouveaux venus grimpaient l'équivalent d'un escalator, mais de son siège, Trévise était incapable de voir les détails de l'installation. Alors que les trois personnages approchaient, la porte de leur compartiment s'ouvrit, livrant passage à un flot d'air froid. Trévise descendit, rattachant le col de son manteau. Les deux autres le suivirent, non sans une considérable réticence pour ce qui était de joie. Les trois comporéliens offraient un aspect informe, avec leurs vêtements gonflants, sans doute chauffés électriquement. Trévise en conçut du mépris. Ce genre d'attirail n'avait guère d'emploi sur Terminus, et la seule fois qu'il avait emprunté un manteau chauffant durant l'hiver, sur la planète voisine d'Anacréon, il avait découvert que le vêtement avait une tendance à chauffer peu à peu, de sorte que, le temps de s'en apercevoir, il transpirait désagréablement. Tandis que les comporéliens approchaient, Trévise nota, non sans indignation, qu'ils étaient armés, et qu'ils ne cherchaient pas à dissimuler la chose, tout au contraire. Chacun arborait un désintégrateur dans un étui passé à l'extérieur du manteau. Ayant avancé d'un pas pour affronter Trévise, l'un des comporéliens lança d'une voix rogue « Excusez-moi, conseiller !» avant d'ouvrir son manteau d'un mouvement brusque et de glisser dessous des mains furteuses qui lui parcoururent rapidement les flancs, le dos, la poitrine, les cuisses. Le par-dessus fut secoué, puis tâté. Trop abasourdi par l'étonnement et la confusion, Trévise ne se rendit compte qu'une fois l'opération finie qu'il venait d'être l'objet d'une fouille aussi rapide qu'efficace. Le menton baissé et la bouche déformée par une grimace, Pellorat était en train de subir la même indignité entre les mains du deuxième comporélien. Le troisième s'approchait de joie, qui n'attendit pas d'être touchée. Elle, en tout cas, savait plus ou moins à quoi s'attendre, car elle se débarrassa brutalement de son manteau et durant quelques secondes resta immobile, exposée à la bise dans sa tenue incroyablement légère, et lança, d'une voix aussi glaciale que la température ambiante, « Vous pouvez constater que je ne suis pas armé. » Et certes, c'était pour tout le monde incontestable. Le comporélien secoua le vêtement, comme si son seul poids pouvait lui indiquer la présence d'une arme. Après tout, c'était possible. Puis il battit en retraite. Joie remit son manteau, se blottissant dedans, et durant quelques instants, Trévise admira son geste. Il connaissait ses sentiments à l'égard du froid, mais elle n'avait pas laissé le moindre tremblement, le moindre frisson la trahir, tandis qu'elle se tenait immobile en chemisette et pantalon. Puis il se demanda si au cours de l'alerte, elle n'aurait pas par hasard récupéré de la chaleur du reste de Gaïa. L'un des comporéliens fit un geste, et les trois étrangers le suivirent. Les deux autres hommes leur emboîtèrent le pas. Les deux ou trois passants qui étaient dans la rue ne prirent même pas la peine de regarder ce qui se passait. Soit parce que le spectacle leur était trop habituel, soit plus probablement parce qu'ils avaient l'esprit occupé à rejoindre plus tôt l'abri de leur destination. Trévise découvrait à présent que les comporéliens avaient gravi une rampe ascendante. Ils la descendaient maintenant tous les six, et franchirent un sas presque aussi compliqué que celui d'un vaisseau spatial, destiné sans aucun doute à empêcher non pas l'air, mais la chaleur de s'échapper. Et puis, tout d'un coup, ils se retrouvèrent à l'intérieur d'un immense édifice.